Au micro, Idrissa Sédoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Bonjour. Au Mali et selon l'AFP, la junte qui a pris le pouvoir la semaine dernière a annoncé dimanche soir une transition de 3 ans dirigée par un militaire et a accepté de libérer le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta qu'elle détient depuis mardi. Nous y reviendrons dans un instant avec Michel Joseph. Le climat restait tendu dimanche en Côte d'Ivoire, au lendemain de violences ethniques qui ont fait au moins 2 morts dans le sillage de la candidature du président Alassane Ouattara à un 3e mandat que ses adversaires jugent inconstitutionnel. Au moins 2 personnes sont mortes à Divo dans les affrontements de samedi, portant à une dizaine le nombre de morts depuis début août. En République démocratique du Congo, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, en détention depuis avril et condamné pour détournement de fonds, a été évacué de la prison dimanche pour suivre des soins dans un hôpital de Kinshasa. Selon son assistant Michel Motu sur Twitter, M. Kamerhe était mal en point en fin d'après-midi. Sa situation s'est dégradée. Au Tchad, le responsable d'une des plus grandes ONG tchadiennes de défense des droits humains, Mahamat Nour Ahmed Ibedou, a été suspendu de ses fonctions par ordonnance judiciaire. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition avec André Kotmajingar à N'Djamena. En Libye, des centaines de protestataires ont manifesté dimanche soir à Tripoli leur colère contre la détérioration des conditions de vie et la corruption dans ce pays meurtri depuis plusieurs années par les conflits avant d'être dispersés par la police. Ils ont exprimé leur ras-le-bol contre la détérioration des services, les fréquentes coupures de courant et d'eau et les longues files d'attente devant les stations d'essence. Par ailleurs, les corps de 22 migrants africains ont été récupérés par le Croissant Rouge au large de la ville de Zouara, dans l'ouest de la Libye, a annoncé dimanche l'Organisation internationale pour les migrations. Ces morts douloureuses sont le résultat d'une politique de plus en plus dure à l'encontre de personnes fuyant les conflits et l'extrême pauvreté et de l'échec de gestion humaine des flux migratoires, a déploré un responsable de l'OIM. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a annoncé dimanche l'autorisation en urgence de la transfusion du plasma sanguin de personnes guéries du coronavirus à des patients hospitalisés. Un traitement déjà largement utilisé aux États-Unis sous certaines conditions dans le cadre d'essais cliniques ou pour des malades en situation désespérée. La transfusion de ce plasma qui contient des anticorps vise à permettre aux malades d'éliminer plus vite le virus et de limiter les dégâts sur l'organisme. Ouverture ce lundi à Charlotte, en Caroline du Nord, de la convention du Parti républicain devant investir le président Donald Trump comme son candidat à la présidentielle du 3 novembre. Tout comme son pendant démocrate qui s'est achevé jeudi sur le discours d'investiture de Joe Biden, la convention républicaine va être majoritairement virtuelle pour cause de coronavirus et très peu d'intervenants s'exprimeront depuis Charlotte. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est arrivé lundi matin en Israël pour une tournée de 5 jours au Moyen-Orient où il doit évoquer la normalisation des relations entre l'État hébreu et des pays arabes après l'annonce de celle d'Israël avec les Émirats arabes unis. La tempête tropicale Laura, qui devrait devenir un ouragan mardi, a atteint Cuba dans la nuit de dimanche à lundi, après avoir fait au moins 12 morts en Haïti et en République dominicaine, alors que l'ouragan Marco se dirige vers le sud des États-Unis. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie, Idrissa Sédoudia. La suite de nos informations. Au Mali, la junte qui a pris le pouvoir la semaine dernière a donc annoncé dimanche soir une transition de 3 ans dirigée par un militaire et a accepté de libérer le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta qu'elle détient depuis mardi. Les détails avec Michel Joseph.
La junte a affirmé qu'elle souhaite faire une transition de 3 ans pour revoir les fondements de l'État malien. Cette transition sera dirigée par un organe présidé par un militaire qui sera en même temps chef de l'État, a indiqué à l'AFP une source au sein de la délégation de la CDAO conduite par l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan à l'issue du 2e jour de négociations avec la nouvelle équipe au pouvoir à Bamako. Un membre de la junte a confirmé à l'AFP les 3 ans de transition avec un président militaire et un gouvernement en majorité composé de militaires. Selon la même source de la CDAO, la junte a donné son accord pour libérer le président Keïta qu'elle détient depuis le coup d'État de mardi, qui pourra repartir à son domicile de Bamako. Et s'il souhaite voyager pour des soins, il n'y a pas de problème, a-t-elle précisé. Quant au premier ministre Boubou Cissé, arrêté en même temps que le président Keïta et détenu dans le camp militaire de Kati, dans la banlieue de la capitale, nous avons obtenu de la junte qu'elle accepte qu'il soit dans une résidence sécurisée à Bamako, a ajouté ce responsable ouest-africain. Toute information confirmée par la source de la junte. La 2e journée de négociations avait débouché sur des avancées sans accord complet et elles doivent reprendre lundi.
Au Nigeria, au moins une personne a été brûlée vive lors d'un affrontement entre les forces de sécurité et des membres du groupe séparatiste indigène du Biafra à Enugu, dans le sud-est du pays. Une réunion du groupe dans la région d'Emene à Enugu a été interrompue par la police qui a accusé les membres du groupe de suivre une formation militaire. Les détails avec notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Des témoins contactés sur place affirment que des membres du mouvement du Biafra s'étaient réunis pour une réunion dimanche matin dans une école de la ville d'Emene à Enugu. Mais la réunion a été brusquement interrompue suite à l'arrivée d'agents de sécurité armés qui ont bouclé le lieu de la réunion et ont commencé à arrêter 7 membres du groupe, ce qui a provoqué un affrontement. Les résidents soutiennent avoir entendu des coups de feu. Le bilan de ces affrontements reste jusqu'ici inconnu, mais un nombre de personnes auraient été blessées. La police d'Enugu n'était pas disposée à commenter sur cet incident. Des soldats lourdement armés ont été déployés dans la région. Le groupe séparatiste Biafra cherche à restaurer un État séparatiste indépendant pour la région du sud-est du Nigeria.
Ici aux États-Unis, près de 240 000 personnes ont été évacuées pour échapper aux incendies qui ravagent la Californie, dont les autorités ont reçu des renforts en hommes et en matériel avant une possible nouvelle série d'orages. Yacouba Ouedraogo.
Une vingtaine de foyers majeurs étaient encore en activité dimanche, dans le NNU Lighting Complex et le SCU Lighting Complex, respectivement au nord et au sud-est de San Francisco. Le NNU a déjà traversé plus de 138 000 hectares, ce qui en fait le 2e incendie le plus important en périmètre de l'histoire de la Californie, derrière le Mendocino Complex et ses 185 000 hectares, partis en fumée en juillet 2018. Le SCU Complex est lui déjà le 3e incendie le plus ravageur, avec plus de 137 000 hectares détruits, alors qu'il n'était contenu qu'à 10% dimanche matin. Au total, sur l'ensemble des feux d'ampleur reportés en Californie, qui ont fait au moins 5 décès, plus de 1 000 bâtiments ont été détruits, dont 845 pour le seul NNU Complex, qui était contenu à 17% dimanche. Près de 240 000 personnes ont été évacuées dans le Golden State, le surnom de cet État, a indiqué dimanche Daniel Berlant, porte-parole de l'Agence californienne de protection contre les incendies, Cal Fire, dans une vidéo postée sur Twitter. Les autorités californiennes ont reconnu que les effectifs étaient, dans un premier temps, insuffisants pour lutter efficacement contre autant d'incendies de grande ampleur. Mais les pompiers de Californie ont reçu hier le renfort d'hommes et de matériel venu de plusieurs États américains, notamment l'Oregon, le Texas, l'Arizona ou le Nouveau-Mexique, a annoncé le porte-parole de Call Fire. Environ 200 hommes de la garde nationale ont également été mobilisés et environ 14 000 pompiers étaient à pied d'œuvre dimanche. Les soldats du feu pouvaient compter sur plus de 200 appareils volants, avions et hélicoptères, y compris des avions militaires modifiés pour combattre les incendies. Le gouverneur Gavin Newsom a sollicité l'aide du Canada et de l'Australie.
La Minute Éco, John Lydon.
À quelques jours du vote décisif du 27 août devant renouveler le mandat du président de la Banque africaine de développement, Hakim Wumi Adesina, le Nigeria vient de doubler ses droits de vote, passé de 9 à 16,8% à la faveur de la libération de sa souscription dans le cadre de la dernière augmentation du capital. Selon le site Financial Afrique, le pays de Muhammadu Buhari devient donc de loin le premier actionnaire de la BAD au 31 juillet 2020 et se positionne pour peser fortement dans le renouvellement du mandat de son ressortissant, mis à mal par les allégations des lanceurs d'alerte. L'élection requiert deux majorités, la globale calculée sur les 81 membres de la banque et la régionale calculée sur les membres africains. L'opérateur mobile sud-africain CLC annonce qu'il prévoit de fermer environ 128 agences à travers le pays, soit plus de la moitié de son empreinte commerciale. Quelques 546 emplois sont en jeu. Celle-ci dit vouloir réduire ses coûts et restructurer ses opérations. Les suppressions d'emplois s'ajouteront au projet de celle-ci de licencier 960 travailleurs. L'entreprise emploie 2500 personnes et compte 240 magasins.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football, le Bayern Munich s'est offert la 6e Ligue des champions de son histoire dimanche soir à Lisbonne.
Oui, en venant à bout du Paris Saint-Germain en finale sur le score de 1-0. Au terme d'une finale équilibrée avec des situations franches des deux côtés en première période avant une bien meilleure maîtrise allemande après la pause, le champion de France a rendu les armes sur un seul but de Kingsley Coman à la 59e minute de jeu. Le PSG devra donc attendre pour remporter la première Ligue des champions de son histoire.
En Afrique, la CAF, en partenariat avec l'UEFA, s'est lancée dans un projet de développement des ligues nationales en Afrique.
Le but de ce programme intitulé CAF et l'UEFA assistent est d'améliorer la structure organisationnelle et la durabilité économique des compétitions. Le projet vise aussi à aider les associations membres à professionnaliser leur ligue et à développer leur club tout en assurant une croissance pérenne du football.
Au Mali, suspendu pour cause de coronavirus, le championnat national de Ligue 1 a repris vendredi dernier.
Tout à fait, mais avec des difficultés, car des forfaits ont été enregistrés. Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako, nous explique.
Sur les 11 matchs de la 22e et dernière journée du championnat national Ligue 1 de football, seulement 4 ont été joués. En d'autres termes, il y a eu beaucoup de cas de forfaits. Les clubs qui ont refusé de prendre part à cette 22e journée ont leur argument à laisser entendre un responsable d'un des clubs. Selon ce dernier, la pomme de discorde est relative à la non-mise en place par la fédération des commissions qui régissent le championnat. Un responsable du comité exécutif de la Fédération malienne de football juge cet argument non valable. Pourquoi évoquer cette question à la dernière journée du championnat, a-t-il rétorqué ? Une problématique qui, selon lui, a d'ailleurs eu une solution avant même le démarrage du championnat, a-t-il indiqué. Et d'ajouter que ces cas de forfait n'entachent en rien la validité de la 22e et dernière journée du championnat de la saison 2019-2020 qui s'achève. Place à présent aux préparatifs des matchs du Caredas et des play-offs. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Et puis, du basketball pour terminer, la NBA, la suite des play-offs et avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
Conférence Est, Boston a éliminé 4-0 Philadelphie en battant l'équipe du Camerounais Joel Embiid 110-106. En Conférence Ouest, Dallas a égalisé avec Los Angeles Clippers de partout en battant cette équipe californienne 135-133. Le Monde aujourd'hui, en votre compagnie Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, le M5-RFP a confirmé son soutien au Comité national pour le salut du peuple au cours d'un rassemblement qui a réuni plusieurs milliers de personnes et des responsables du CNSP au Monument de l'Indépendance à Bamako. Actuellement, les regards sont tournés vers la mise en place de la transition. C'est pour cela que les militaires au pouvoir rencontrent les acteurs de la classe politique et de la société civile. De Bamako, Kassim Traoré.
Au pied du Monument de l'Indépendance et sur son boulevard, c'était la joie et la communion entre les militaires qui ont renversé le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta et les civils pour une fête dite de la victoire du peuple. Imam Mahmoud Diko, personnalité morale du M5-RFP.
Aujourd'hui, c'est l'heure de la réconciliation et la grande réconciliation. C'est vraiment si j'ai un appel aujourd'hui et faire preuve de tolérance et de pardon. Que nous ne sommes pas un peuple méchant. Qu'on fasse beaucoup attention, nous sommes tous les mêmes. Je demande à tout le monde de faire preuve de retenue.
Au cours de ce rassemblement, plusieurs messages d'encouragement ont été adressés au Comité national pour le salut du peuple. Les numéros 2 et 3, plus le porte-parole, le colonel-major Ismaël Ouagé, étaient sur place.
On est content et heureux d'aller rencontrer la population qui nous a soutenus après cette action de changement. Parce que tout ce qui a été fait, c'est le parachèvement du travail populaire qui s'est concrétisé. Et forcément, on a été émus du soutien massif qu'on a vu. C'est normal qu'on ait rencontré cette population qui a soutenu et qui continue à soutenir.
Au lendemain de ce rassemblement organisé par le M5-RFP, des partisans de l'ancien président étaient à la bourse du travail pour demander sa libération.
Ibeka aujourd'hui est séquestré. Il n'est pas à Kati de son gré. Il est séquestré. Le premier ministre est séquestré. L'honorable Moussa Temine est séquestré à Kati. Tous les hauts fonctionnaires, toutes les personnalités du Mali aujourd'hui qui se trouvent dans les mains des putschistes sont séquestrés. Et nous demandons à la communauté internationale d'agir pour la justice, d'agir pour la légalité, d'agir pour les droits. Le Mali est un héritage commun.
Aujourd'hui, les Bamakois définissent leurs priorités par rapport aux changements proposés par les militaires.
Parce que la priorité aujourd'hui, c'est la sécurité, c'est la cohésion. Les gens sont en train de s'entretenir. Ça, c'est une priorité. Mais
il va falloir qu'on se base sur l'éducation d'abord. Il doit assurer la sécurité parce que tout passe par là. Tant qu'il n'y a pas une bonne éducation, on va retomber dans ce même cycle de mauvaise gouvernance.
La cohésion d'abord entre les peuples maliens, c'est ça qui est primordial. Que les Maliens se donnent la main entre nous, qu'on essaie d'abord de régler le pays d'abord. Donc ça ne peut pas aller sans la paix. Qu'on ne met pas de quelqu'un à côté, non, ça c'était de la majorité, ça c'est de l'opposition, non, non, non. Moi je ne pense pas que ça c'est la solution. On est tous des Maliens, il faut qu'on se regarde droit aux yeux, de dire la vérité.
Pour l'élaboration d'une feuille de route consensuelle, les militaires ont initié des échanges. Alfousseni Abba, vice-président de la CODEM, membre de l'ex-majorité présidentielle.
Nous avons proposé simplement de ne pas commettre l'erreur commise par leurs prédécesseurs. Ils ont le temps et de rentrer dans l'histoire. Il faudrait corriger à jamais le mal dont souffre notre pays, c'est-à-dire doter le pays d'institutions très fortes, d'aller en profondeur dans les réformes, ensuite d'aller aux élections. Et il faut que les élections soient réellement des élections véritables.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Aux dernières nouvelles et selon l'AFP, la junte au pouvoir au Mali souhaite qu'un organe de transition dirigé par un militaire soit mis en place pour une période de 3 ans et accepte que le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta retourne à son domicile, ont indiqué dimanche soir des sources de la CDAO et de la junte citées par l'agence France-Presse. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a été officiellement investi ce samedi comme candidat de son parti, le RHDP, à la présidentielle d'octobre. Une investiture qui a réuni des milliers de ses partisans au stade de Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Un plébiscite qui contraste avec les violentes manifestations qui se poursuivent encore dans plusieurs localités sur fond de conflits interethniques depuis l'annonce de sa candidature à la présidentielle, Cyril Kibaro.
Accueil triomphal pour le candidat du RHDP au stade Félix Houphouët-Boigny pour son investiture.
En véritable harangueur de foule et sûr de ses forces, Alassane Ouattara a qualifié ses adversaires de peureux au regard de toutes les agitations de ses opposants qui qualifient d'inconstitutionnel ce troisième mandat.
Ils ont peur, ce sont des peureux, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner contre moi.
L'opposition a appelé ses partisans à des marches de protestation contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Dans la foulée, le gouvernement, par la voix de son porte-parole, le ministre Sidi Touré, annonce l'interdiction des manifestations sur la voie publique jusqu'à la mi-septembre. Malgré cette interdiction, les partisans de l'opposition sont sortis pour donner de la voix. Certains leaders de l'opposition ont été arrêtés. Parmi eux, des femmes pour qui ce troisième mandat d'Alassane Ouattara est inacceptable.
Il nous a dit dans le mois de mars qu'il n'allait plus être président. On l'a embrassé, on a dansé. Il a fait deux mandats, ça suffit. Il part. Il y a beaucoup d'intellectuels, peut-être même d'autres, mais sont plus instruits que lui. Nous ne voulons plus de lui.
À Abidjan, comme dans certaines villes du sud et de l'ouest du pays, comme Bonoua, où un couvre-feu a été instauré, Divo ou encore Gagnoua, les manifestations ont dégénéré en affrontements entre Malinké, venu du nord, et les populations autochtones. Alassane Ouattara a tenu à mettre en garde ceux qui, selon lui, veulent instaurer la violence en Côte d'Ivoire.
Il faut que certains comprennent qu'en tout cas, en Côte d'Ivoire, le temps des coups d'État est passé. Le temps d'accéder au pouvoir par accident est passé. À compter de maintenant, ce sont les Ivoiriens qui votent et qui désigneront le prochain président. Arrêtons la violence. Ceux qui voudront s'engager
de son côté, la commission électorale indépendante a rejeté les requêtes pour radiation de la liste électorale de l'ex-président Laurent Gbagbo, de son ministre Charles Blégoudé et de l'ex-président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. Siriki Barreau, Boaké, pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Tchad, suspension d'un défenseur d'une ONG des droits de l'homme, Mahamat Nour Ahmad Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme, a été suspendu de ses fonctions par le président du tribunal de grande instance de N'Djamena, pour un malentendu intervenu au sein de cette organisation. Notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar, fait le point.
Une décision qui fait suite à la requête aux fins de l'obtention d'une ordonnance de suspension de ce leader charismatique de la société civile tchadienne de ses fonctions pour gestion patrimoniale et opaque de l'organisation au mépris des textes statutaires. Requête introduite par Ahmad Assabala, Mahamat à la tête de quelques militants mécontents. Le président du tribunal trouve la requête fondée et suspend M. Ibedou de ses activités le 12 août dernier. Pour Abbas Alassane, rapporteur du comité exécutif national de la dite convention, Ahmad Assabala, Mahamat n'a pas qualité d'agir au nom de l'organisation puisqu'il avait été suspendu pour détournement de fonds.
Dans tout mouvement et dans toute organisation, il a toujours existé des traîtres. Et pour le cas de la CTDH, un membre qui avait reçu un avertissement pour avoir détourné de l'argent de la caisse de l'organisation a été rapidement récupéré par les pouvoirs. Nous, membres du comité exécutif, réitérons notre soutien sans faille au secrétaire général de notre organisation, Mahamat Nour Ahmad Ibedou.
Contacté par VOA Afrique pour sa version de fait, l'auteur de la requête Ahmad Assabala, Mahamat a laissé entendre qu'il s'exprimera sur cette affaire au moment opportun. Le président du collectif des associations de défense des droits de l'homme, Maître Salomon Nuditolum, exprime ses vives préoccupations et estime que cette procédure est une atteinte grave à la liberté associative.
Tout le monde sait que M. Ibedou a fait ces derniers temps l'objet de tracasseries orchestrées, certainement par des gens tapis dans l'ombre. Nous estimons qu'il y a une main derrière. Ibedou n'a fait que faire son travail et celui qui n'est pas content de son travail peut aller se plaindre, mais utiliser un de ses militants pour le suspendre de ses fonctions, ce n'est pas normal.
Le président du tribunal de grande instance de N'Djamena, Hamid Mustapha Nour, justifie son acte et invite les ADH à la retenue.
La loi me fait obligation de signer l'ordonnance, même dans la nuit. Mais maintenant, ce qu'on a fait n'est pas conforme selon leur statut, je ne sais pas, règlement intérieur. Il suffit de venir former l'opposition et puis demander la rétractation parce que le président du tribunal a été un double revers. C'est à elle de me convaincre à quel moment l'autorité a utilisé la justice. Merci, bref, dans ce sens. Mais il n'y a qu'à pour prouvé. Ils disent que le monsieur Amazasava a détourné le fonds à partir de l'association. Mais il n'est pas venu apporter la paix.
Pour le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, Maître Max Loalgar, cet acte est bel et bien une machination et même une ingérence du pouvoir judiciaire dans les affaires associatives.
Le plus ignorant des citoyens sait que les modes de déchéance des responsabilités associatives là, sont déterminés par les statuts et les règlements de ces associations. Donc il n'appartient pas à une juridiction de s'ingérer dans les affaires internes pour suspendre le responsable d'une association. Du point de vue strictement juridique, c'est nul et d'une nullité absolue. Ibedou doit continuer par travailler au sein de son association.
Les organisations de la société civile estiment que cette ordonnance est un acharnement orchestré contre Mohamed Nour Hamadi Ibedou pour ses critiques acerbes contre le régime de N'Djamena. Elle se réserve le droit d'engager la responsabilité de l'État tchadien de tout ce qui adviendrait contre lui. André Kodumadi
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Togo, le début de la diversification alimentaire constitue une période d'angoisse pour les parents. Que donner à son enfant des purées, produits faits maison ou de petits pots proposés dans de grandes surfaces ou pharmacies? Une start-up allie les deux approches. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
C'est un jour de production à Bébé Green Togo. Les fruits et légumes lavés et coupés en petits morceaux passent au mixeur. Ils sont ensuite mis dans des pots préalablement stérilisés et sont immédiatement mis dans le réfrigérateur. La production ainsi faite, le service de livraison prend le relais. Il a 24 heures pour écouler cette production. Bébé Green Togo ne produit qu'en petite quantité pour le moment et des fois sur commande. Cette jeune entreprise vient soulager les parents dont les nourrissons doivent passer le cap de la diversification alimentaire. La structure propose des produits faits maison qu'elle commercialise. Laetitia Atou, directrice de Bébé Green Togo.
Je me suis dit, pourquoi ne pas prendre les fruits, les légumes qu'on a au Togo, les transformer en purée et en compote pour donner aux enfants. Donc voilà, je suis allée au marché, j'ai pris des fruits et j'ai commencé par faire des compositions. J'ai commencé par le faire avec mon dernier bébé. Donc je me suis dit, d'autres mamans, dans mon cas, auront les mêmes soucis. Et c'est là que j'ai voulu commercialiser. La gamme est en train d'être très variée. Présentement, on peut avoir 12 compositions avec Bébé Green.
De bouche à oreille et grâce aux réseaux sociaux, Bébé Green Togo se fait sa petite clientèle. Liberté Arodo, mère d'un garçon de 9 mois.
J'aime me promener sur les réseaux sociaux et c'est là que j'ai découvert la page de Bébé Green. Mais bon, comme je suis également maman d'un petit garçon de 9 mois, j'ai voulu essayer parce que dans un premier temps, je suis de nature très, très sélectif en matière de bouffe. Surtout concernant mon bébé, j'aime plutôt privilégier les légumes, les fruits dans son alimentation. Et donc, ça tombait à pic.
Bébé Green Togo se veut une entreprise sociale. Elle organise des séances de causerie-débat animées par des nutritionnistes et pédiatres pour sensibiliser les mères sur l'alimentation de leurs enfants. Nous retrouvons la directrice de Bébé Green Togo, Laetitia Atou.
Je me suis engagée parce que j'ai fait l'expérience et j'ai vu que mon dernier bébé qui a goûté à tous ces produits naturels, j'ai vu le développement qu'il a eu. Donc du coup, je sensibilise les mamans à s'adapter au naturel, à prendre des produits que nous avons au Togo. On a tout dans ces aliments que nous avons au Togo. Moi, je me dis qu'avec ces produits, quand on le donne au bébé, ça peut lutter contre la malnutrition.
Le mieux, c'est de privilégier la santé du bébé en optant pour des produits sains, recommandent les professionnels de la santé. Pour la pédiatre Dede Hila, c'est bien les purées faites maison, mais c'est encore mieux avec des produits bio.
Les légumes que nous avons dans nos marchés, qui sont produits dans les jardins, est-ce que ces produits sont contrôlés? C'est vrai, on va dire, c'est fait maison, mais ceux que nous achetons souvent n'ont pas été analysés, ne sont pas bio pour la plupart. Nous les donnons aux enfants en se disant, je les fais moi-même. Sauf qu'avec l'utilisation intensive des engrais et autres, est-ce que ces produits-là sont sains? Maintenant, quand on est sûr de ce qu'on achète, quand on peut obtenir des légumes et des fruits vraiment bio.
Kailo Sol, Lomé, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sédoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.